Division du travail et aliénation. Ayant affaire aux Allemands détachés de tout, force nous est de constater d'emblée que la première condition de toute existence humaine, donc de toute histoire, c'est que les hommes doivent être en mesure de vivre pour être capables de « faire l'histoire », entre guillemets. Or, pour vivre, il faut avant tout manger et boire, se loger, se vêtir, et maintes choses encore. Le premier acte historique, c'est donc la création des moyens pour satisfaire ses besoins, la production de la vie matérielle elle-même. En vérité, c'est là un acte historique, une condition fondamentale de toute l'histoire que l'on doit, aujourd'hui tout comme il y a des milliers d'années, remplir jour par jour, heure par heure, rien que pour maintenir les hommes en vie. Même si l'on réduit, à l'instar de Bruno, la réalité sensible à un simple bâton, au strict minimum, cette réalité suppose l'activité qui produit ce bâton. La première règle de toute conception historique, c'est donc d'observer ce fait fondamental dans toute son importance et toute son étendue, et de lui faire droit. C'est ce que les Allemands, comme chacun sait, n'ont jamais fait. Voilà pourquoi ils n'ont jamais eu de base terrestre pour l'histoire, et par conséquent, jamais d'historien. Quant aux Français et aux Anglais, bien qu'ils n'aient saisi que par un seul biais le lien de ce fait avec la prétendue histoire, surtout aussi longtemps qu'ils restèrent imbus d'idéologie politique, ils n'en ont pas moins fait les premières tentatives pour donner à l'historiographie une base matérielle. En étant les premiers à écrire l'histoire de la société bourgeoise, celle du commerce et de l'industrie. La deuxième condition préalable, c'est que, une fois satisfait le premier besoin lui-même, le geste de le satisfaire et l'instrument créé à cette fin conduisent à de nouveaux besoins. Et c'est cette production de nouveaux besoins qui constitue le premier acte historique. C'est ici que se révèle, sur le champ, le secret de la grande sagesse historique des Allemands. Car lorsqu'ils sont à court de matériaux positifs, et qu'il ne s'agit pas de discuter d'absurdités théologiques, politiques ou littéraires, ils n'admettent aucune histoire, mais ne connaissent que « des temps préhistoriques », entre guillemets, sans pour autant nous éclairer sur la manière dont on passe de ce non-sens de la « préhistoire », entre guillemets, à l'histoire proprement dite. Au demeurant, leur spéculation historique est tout spécialement friande de cette « préhistoire », parce qu'elle s'y croit à l'abri des empiètements du fait brut, entre guillemets, et aussi parce qu'elle peut y donner libre cours à son penchant spéculatif, en échafaudant et en renversant les hypothèses par milliers. La troisième relation qui intervient ici dès l'origine dans le développement historique est que les hommes, tout en renouvelant quotidiennement leur propre vie, commencent à créer d'autres hommes, à se reproduire. C'est là la relation entre l'homme et la femme, entre parents et enfants, c'est la famille. Dès l'abord seul rapport social, cette famille devient plus tard une institution de second ordre, quand la multiplication des besoins crée de nouvelles relations sociales et que l'accroissement de la population engendre de nouveaux besoins. Il faut alors l'aborder et l'analyser sur la base des données empiriques existantes et non d'après le « concept de famille », entre guillemets, comme on le fait habituellement en Allemagne. D'ailleurs, ces trois aspects de l'activité sociale ne doivent pas être conçus comme trois stades différents, mais précisément comme trois aspects et rien d'autre, ou pour être compris des Allemands, trois moments, trois facteurs, qui ont existé simultanément depuis les débuts de l'histoire et l'apparition des premiers hommes, et qui, aujourd'hui encore, jouent un rôle dans l'histoire. La production de la vie, qu'il s'agisse de sa propre vie par le travail ou de la vie d'autrui par la procréation, apparaît donc dès à présent comme une relation double, tant naturelle que sociale. Sociale en ce qu'il est question de la coopération de plusieurs individus, peu importe dans quelles conditions, de quelle manière et à quelle fin. Il en résulte qu'un mode de production ou un stade industriel déterminé est toujours lié à un mode déterminé de coopération ou à un stade social bien défini. Et ce mode de coopération est lui-même une force productive, entre guillemets. Que la quantité de force productive accessible aux hommes détermine l'état social, de sorte que l'histoire de l'humanité, entre guillemets, doit être étudiée et traitée en liaison avec l'histoire de l'industrie et du commerce. Mais il est non moins clair qu'en Allemagne, une historiographie de ce genre est impossible. Car non seulement la compréhension et les matériaux, mais aussi la « certitude sensible », entre guillemets, font défaut aux Allemands, et que de l'autre côté du Rhin, on ne peut faire des expériences sur ces choses, puisque l'histoire s'y est arrêtée. Par conséquent, on constate, avant toute chose, un lien matérialiste des hommes entre eux, un lien déterminé par les besoins et le mode de production, et qui est aussi vieux que les hommes eux-mêmes. Un lien qui adopte sans cesse de nouvelles formes et offre donc une « histoire », entre guillemets, même sans qu'il existe un non-sens politique ou religieux d'aucune espèce qui serve spécialement à rapprocher les hommes. C'est à présent seulement, après avoir examiné quatre éléments, quatre aspects des rapports historiques primitifs, que nous apprenons que l'homme possède également une « conscience », entre guillemets. Note de bas de page. Si les hommes ont une histoire, c'est parce qu'ils doivent produire leur vie, nécessité qu'ils accomplissent d'une manière déterminée. Leur organisation physique le leur impose. Il en est de même en ce qui concerne leur conscience. Fin de la note de bas de page. Encore ne s'agit-il pas là, dès l'origine, de conscience pure, entre guillemets. Dès l'origine, l'esprit, entre guillemets, est frappé par la malédiction d'être entaché de la matière, qui emprunte ici la forme de couches d'air agitées, de sons, bref, la forme du langage. Le langage est aussi vieux que la conscience. Il l'est, la conscience réelle, pratique, aussi présente pour les autres hommes que pour moi-même. Et, comme la conscience, le langage naît du seul besoin, de la nécessité du commerce avec d'autres hommes. Là où il y a relation, elle existe pour moi, alors que l'animal ne se « rapporte » entre guillemets à rien et n'a absolument aucune relation. Pour l'animal, ses rapports avec les autres animaux n'existent pas en tant que rapport. La conscience est donc, dès l'origine, un produit social et le demeure aussi longtemps qu'il existe des hommes, tout simplement. Naturellement, la conscience n'est d'abord que la conscience du milieu sensible immédiat, et celle du lien borné qui le rattache à d'autres personnes et choses extérieures à l'individu qui prend conscience de lui-même. C'est, en même temps, la conscience de la nature qui, au début, s'oppose aux hommes comme une puissance totalement étrangère, toute puissante et inébranlable, envers laquelle ils ont un comportement purement animal et dont ils subissent l'ascendant comme s'ils étaient du bétail. Bref, c'est une conscience purement animale de la nature. Religion de la nature, entre parenthèses. Note de bas de page. On comprend facilement que cette religion de la nature, ou ce comportement déterminé envers la nature, dépend de la forme de la société, et vice-versa. Ici comme partout ailleurs, l'identité de la nature et de l'homme se révèle également dans le fait que le comportement borné des hommes vis-à-vis de la nature détermine leur comportement borné entre eux, et, inversement, celui-ci, celui-là. C'est justement parce que la nature n'est encore guère modifiée par l'histoire. Fin de la note de bas de page. Donc bref, c'est une conscience purement animale de la nature, mais aussi la conscience de la nécessité d'entrer en communication avec d'autres individus alentour. L'homme commence à avoir conscience qu'il vit tout simplement dans une société. Ce début est aussi animal que l'est, à ce stade, la vie sociale elle-même. C'est une pure conscience grégaire. Et l'homme ne se distingue ici du mouton qu'en ce que sa conscience lui tient lieu d'instinct ou que son instinct est un instinct conscient. Cette conscience moutonnière ou tribale continue à se développer et à se former grâce à l'accroissement de la productivité, à la multiplication des besoins et à l'augmentation de la population, source du premier et de la seconde. Simultanément, se développe la division du travail, qui ne se manifestait primitivement que dans les rapports des sexes, puis la division du travail qui résulte automatiquement, ou spontanément, des dispositions naturelles, entre parenthèses, vigueur physique par exemple, des besoins, des hasards, etc. La division du travail n'acquiert son vrai caractère qu'à partir du moment où intervient la division du travail matériel et du travail intellectuel. Note de bas de page, c'est à quoi correspond le premier type des idéologues, les prêtres. Fin de la note de bas de page. Dès cet instant, la conscience peut vraiment s'imaginer qu'elle est autre chose que la conscience de la pratique établie et qu'elle représente réellement quelque chose sans représenter quelque chose de réel. À partir de ce moment, la conscience est capable de s'émanciper du monde et de passer à la formation de la théorie pure, entre guillemets, théologie, philosophie, morale, etc. Mais alors même que cette théorie, cette théologie, cette philosophie, cette morale, etc., entre en conflit avec les conditions existantes, ce heurt ne peut se produire que parce que les conditions sociales existantes sont entrées en conflit avec la force productive existante. Cela peut d'ailleurs arriver dans un cadre national bien déterminé. Quand le conflit surgit non pas dans ce contexte national, mais entre cette conscience nationale et la pratique des autres nations, c'est-à-dire entre la conscience nationale et la conscience universelle d'une nation. Entre parenthèses, comme c'est présentement le cas en Allemagne. Au demeurant, ce que la conscience entreprend par elle-même n'a strictement aucune importance. De tout ce bourbier, nous retiendrons uniquement le fait que ces trois éléments, la force productive, l'état social et la conscience, peuvent et doivent entrer en conflit, étant donné qu'avec la division du travail, il peut arriver, et il arrive en fait, que l'activité spirituelle et l'activité matérielle, que la jouissance et le travail, que la production et la consommation, échoient à des individus différents. La seule possibilité d'éviter ce conflit consiste, une fois de plus, à abolir la division du travail. Il va de soi au demeurant que les « fantômes », entre guillemets, les chaînes, l'être supérieur, le concept, l'ambiguïté, sont tout simplement l'expression idéaliste, spéculative et sacrée, la représentation, apparemment, de l'individu esselé, la représentation de chaînes et de barrières fort empiriques, à l'intérieur desquelles le mode de production de la vie gravite avec sa forme de commerce. Tout en reposant sur la division naturelle du travail dans la famille et sur la séparation de la société en familles isolées et opposées les unes aux autres, la division du travail, avec toutes ses contradictions, entraîne en même temps la répartition du travail et de ses produits. Répartition inégale, certes, en quantité comme en qualité. Et, par conséquent, la propriété, dont le germe, la première forme, se trouve dans la famille, où la femme et les enfants sont les esclaves de l'homme. Encore très rudimentaire et latent dans la famille, l'esclavage est la première propriété. Ici, du reste, cette propriété correspond parfaitement à la définition des économistes modernes, pour qui propriété signifie disposition d'une force de travail étrangère. Au demeurant, division du travail et propriété privée sont des expressions identiques. La première exprimant par rapport à l'activité, ce que la seconde exprime par rapport au produit de cette activité. En outre, la division du travail fait naître également l'antagonisme entre l'intérêt de chaque individu, ou de chaque famille, et l'intérêt commun de tous les individus qui communiquent entre eux. Et, à vrai dire, cet intérêt commun n'existe pas simplement dans l'imagination, en tant qu'idée générale, entre guillemets, mais en premier lieu, dans la réalité, en tant que mutuelle dépendance des individus entre lesquels le travail est divisé. C'est précisément en raison de cette opposition entre l'intérêt particulier et l'intérêt commun, que celui-ci prend, en tant qu'État, la configuration autonome, détachée des intérêts réels, individuels et collectifs, en même temps qu'il se présente comme communauté illusoire, mais toujours sur la base réelle des liens existants dans chaque conglomérat de familles et de tribus, tels que consanguinité, langage, division du travail à une plus grande échelle et autres intérêts. En particulier, comme nous l'exposerons plus tard, sur la base des classes sociales déjà issues de la division du travail, lesquelles se constituent séparément dans tout agrégat humain de ce genre, et dont l'une domine toutes les autres. Il s'ensuit que toutes les luttes au sein de l'État, la lutte entre la démocratie, l'aristocratie et la monarchie, la lutte pour le suffrage, etc., ne sont que les formes illusoires, le général étant toujours la forme illusoire du communautaire, ne sont que les formes illusoires, donc, dans lesquelles les luttes des différentes classes entre elles sont menées. Ouvrez la parenthèse, ce dont les théoriciens allemands ne soupçonnent pas un traître mot, bien qu'ils y aient été suffisamment initiés par les annales franco-allemandes et par la Sainte Famille. Fermez la parenthèse. Il s'ensuit en outre que toute classe qui aspire à la domination, même si cette domination a pour condition, comme c'est le cas pour le prolétariat, l'abolition de toute l'ancienne forme de la société et de la domination en général, il s'ensuit donc en outre que toute classe qui aspire à la domination doit d'abord s'emparer du pouvoir politique afin de présenter, elle aussi, son intérêt comme l'intérêt général, ce à quoi elle est contrainte dès le début. C'est justement parce que les individus poursuivent uniquement leurs intérêts particuliers, qui, à leurs yeux, ne coïncident nullement avec leur intérêt commun, que celui-ci est mis en avant comme un intérêt qui leur est « étranger », entre guillemets, et qui est indépendant d'eux, bref, comme un intérêt « général », qui est, à son tour, d'une nature particulière et bien à lui. Sans quoi, ils doivent eux-mêmes se mouvoir dans ce conflit intérieur, comme c'est le cas dans la démocratie. Du reste, la lutte pratique de ces intérêts particuliers, constamment opposés aux intérêts communs, réels ou illusoires, rend nécessaire l'intervention pratique et l'action modératrice de l'illusoire intérêt général qui a forme d'État. Enfin, et la division du travail nous en fournit d'emblée le premier exemple, aussi longtemps que les hommes se trouvent dans la société primitive, donc aussi longtemps que subsiste la division entre l'intérêt particulier et l'intérêt général, et que l'activité n'est pas divisée, volontairement mais naturellement, le propre acte de l'homme se dresse devant lui comme une puissance étrangère qui l'a servi, au lieu que ce soit lui qui la maîtrise. En effet, du moment où le travail commence à être réparti, chacun entre dans un cercle d'activité déterminé et exclusif, qui lui est imposé et dont il ne peut s'évader. Il est chasseur, pêcheur, berger, ou critique, entre guillemets. Et il doit le rester sous peine de perdre les moyens qui lui permettent de vivre. Dans la société communiste, c'est le contraire. Personne n'est enfermé dans un cercle exclusif d'activité, et chacun peut se former dans n'importe quelle branche de son choix. C'est la société qui règle la production générale, et qui me permet ainsi de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de m'occuper d'élevage le soir et de m'adonner à la critique après le repas, selon que j'en ai envie, sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou critique. Cette activité sociale qui s'immobilise, ce produit de nos mains qui se change en un pouvoir matériel qui nous domine, échappe à notre contrôle, contrarie nos espoirs, ruine nos calculs. Ce phénomène-là, c'est un des principaux facteurs de l'évolution historique connue jusqu'ici. La puissance sociale, c'est-à-dire la force productive multipliée résultant de la coopération imposée aux divers individus par la division du travail, apparaît à ces individus, dont la coopération n'est pas volontaire mais naturelle, non comme leur propre puissance conjuguée, mais comme une force étrangère, située en dehors d'eux, dont ils ignorent les tenants et les aboutissants, qu'ils sont donc incapables de dominer, et qui, au contraire, parcourt maintenant une série bien particulière de phases et de stades de développement, succession de faits, à ce point indépendante de la volonté et de la marche des hommes, qu'elle dirige en vérité cette volonté et cette marche. Cette aliénation, entre guillemets, pour être compris des philosophes, ne peut être naturellement surmontée qu'à une double condition pratique. Afin qu'elle devienne une puissance insupportable, entre guillemets, c'est-à-dire une puissance contre laquelle on se révolte, il faut, d'une part, qu'elle ait produit des masses d'hommes qui ne possèdent absolument rien, des masses privées de tout. Il faut, en même temps, que cette humanité dénuée contraste avec le monde existant de la richesse et de la culture. Ce qui suppose une grande augmentation de la force productive, un haut degré de son développement. D'autre part, ce développement des forces productives, ouvrez l'en parenthèse, par lequel, simultanément, est déjà donnée la vie empirique présente dans l'existence historique mondiale des hommes, et non plus dans leur existence locale, fermez la parenthèse. D'une part donc, ce développement des forces productives est une condition pratique absolument nécessaire, parce que sans lui, seule l'indigence et la misère deviendraient générales, et on verrait fatalement renaître la lutte pour le nécessaire. Ce serait le retour de toute la vieille misère. En outre, seul ce développement universel des forces productives permet un commerce universel des hommes. C'est pourquoi on voit surgir simultanément la concurrence générale chez tous les peuples, le phénomène de la masse déshéritée faisant dépendre chacun d'eux des bouleversements qui se produisent chez les autres. Enfin, à la place des individus provinciaux, cette évolution a fait apparaître des individus réellement universels, dont l'horizon est l'histoire mondiale. Sans ce développement, premièrement, le communisme ne pourrait avoir qu'une existence locale. Deuxièmement, les puissances de la communication elles-mêmes n'auraient pu devenir des puissances universelles, donc intolérables. Elles seraient restées les « circonstances », entre guillemets, du petit chez-soi superstitieux. Troisièmement, toute extension du commerce des hommes abolirait le communisme d'un seul lieu. Le communisme n'est possible concrètement que comme le fait des peuples dominants, accompli d'un seul coup et simultanément, ce qui suppose le développement universel des forces productives et du commerce mondial qui s'y rattache. Pour nous, le communisme n'est pas un état de choses qu'il convient d'établir, un idéal auquel la réalité devra se conformer. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses. Les conditions de ce mouvement résultent des données préalables telles qu'elles existent présentement. Au demeurant, la masse de purs travailleurs, force de travail en masse, séparée du capital ou privée des moindres satisfactions, suppose le marché mondial, tout comme le suppose la perte de ce travail même par suite de la concurrence. Perte plus que temporaire du travail comme source assurée d'existence. Par conséquent, le prolétariat ne peut exister qu'en tant que force historique et mondiale. De même que le communisme, action du prolétariat, n'est concevable qu'en tant que réalité historique et mondiale. Existence historique et mondiale des individus, cela veut dire que ces individus mènent une existence qui se rattache directement à l'histoire universelle. Sans quoi, comment la propriété, par exemple, aurait-elle pu avoir une histoire et adopter des formes différentes ? Et comment la propriété foncière aurait-elle pu, selon le cas qui se présentait, passer en France du morcellement à la centralisation en peu de mains, et en Angleterre, de la centralisation outrancière au morcellement, comme cela arrive réellement aujourd'hui ? Ou encore, comment se fait-il que le commerce, qui n'est cependant rien d'autre que l'échange des produits d'individus et de pays différents, domine le monde par la loi de l'offre et la demande ? Loi qui, comme le déclare un économiste anglais, plane au-dessus de la terre telle l'antique fatalité et, d'une main invisible, distribue aux hommes heurts et malheurs, fonde des empires et les détruit, fait naître et disparaître les peuples. En revanche, avec la suppression de la base, de la propriété privée, avec l'organisation communiste de la production et l'anéantissement consécutif de l'aliénation qui marque la conduite des hommes vis-à-vis de leurs propres produits, la puissance de la loi de l'offre et de la demande est réduite à néant. Et les hommes redeviennent maîtres des échanges de la production, de la façon dont ils se conduisent les uns envers les autres. La forme de commerce déterminée à tous les stades historiques par les forces productives disponibles, et les déterminant à leur tour, c'est la société civile. Comme il résulte déjà de ce qui précède, cette société a pour préalable et pour fondement la famille simple et la famille composée. Ce qu'on appelle le lignage, dont les caractéristiques plus précises ont été données ci-dessus. On comprend déjà que cette société civile est, en vérité, le creuset et le théâtre de toute histoire. Et combien est absurde la traditionnelle conception de l'histoire qui néglige les circonstances réelles et se limite aux faits et gestes politiques retentissants. Jusqu'ici, nous avons considéré principalement un seul côté de l'activité humaine, à savoir l'action exercée par l'homme sur la nature. L'autre côté, l'action des hommes sur les hommes. Origine de l'État et rapport de l'État à la société civile. La société civile comprend l'ensemble du commerce matériel des individus à un certain stade de développement des forces productives. Elle embrasse la totalité de la vie commerciale et industrielle de ce stade historique et dépasse, dans cette mesure, le cadre de l'État et de la nation. Toutefois, à l'extérieur, elle doit s'affirmer en tant que nation et, à l'intérieur, s'organiser en tant qu'État. Le terme « société civile », entre guillemets, apparu au XVIIIe siècle, quand les rapports de propriété s'étaient déjà dégagés de la communauté antique et médiévale. La société bourgeoise comme telle ne se développe qu'avec la bourgeoisie. Cependant, l'organisation sociale issue directement de la production et du commerce, et qui, à toutes les époques, forme la base de l'État, comme de toute autre superstructure idéaliste, a été continuellement désignée par le même terme.